Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde, vous Bonjour. Écoutez toujours l'émission Drôle de Dame sur Fréquence 7, votre radio préférée. Alors aujourd'hui, on va s'interroger sur les médias et leur impact sur la société. Et on considère que si les médias sont essentiels dans notre société pour faire exister la vie démocratique, est-ce qu'on peut se satisfaire d'une défiance toujours plus grandissante de la part des Français ? Puisque selon le baromètre des Français, des médias de 2022, seuls 44% des personnes interrogées estiment que les médias fournissent des informations fiables et vérifiées. Alors tout ceci nous conduit à nous interroger effectivement comment on peut renouer le lien de confiance qui est absolument vital pour cette vie démocratique. Quels doivent être le sens du journalisme et de l'information en général. Alors pour en parler, nous avons interviewé Pierre Souchon, journaliste du Monde diplomatique et à l'Humanité, et Mathieu, qui est militant à Incrimed, que nous remercions vivement tous les deux.
Alors, c'est parti. Alors, on parle d'infos en continu, et de ce fait, on a presque 24 heures sur 24 de l'information. Or, on a toujours dit que le journalisme était un travail précis d'enquête. Et dans ces conditions, est-ce que c'est compatible avec l'idée d'infos en continu ?
Alors non, c'est pas du tout incompatible. Moi, je pense que comme point d'analyse, ce qu'il faut prendre, c'est la grande référence du journalisme traditionnel qui est Albert Londres. Donc Albert Londres, dans les années 20 ou 30, je ne sais plus exactement, il faut vérifier, il fait un livre sur le bagne de Cayenne, qui est une grande prison à l'époque en Guyane, qui s'appelle Au bagne. Et donc il va enquêter pendant un an, et il va décrire de manière très précise les conditions de vie des bagnards, leurs évasions, ce qu'ils font au jour le jour, etc. Et donc la publication de ce qui va être un petit livre va entraîner un scandale politique national et la fermeture du bagne de Cayenne. Et donc du coup, c'est très facile aujourd'hui d'imaginer ce que ça serait, la couverture du bagne de Cayenne, s'il existait encore, par une chaîne d'information en continu. C'est-à-dire qu'elle irait mettre ses caméras devant, qu'elle filmerait, qu'elle ferait venir le directeur, qui déroulerait un discours de communication, ou alors mieux, elle irait là-bas sur place, parce qu'il y aurait une évasion de bagnard, donc elle filmerait le directeur affolé, qui dirait « nous mettons tout en œuvre pour le retrouver », etc. Et donc, ça serait le contraire de la formation d'Albert Londres, qui demande du temps, qui demande de l'enquête, qui demande de l'énergie, qui demande de poser des milliers de questions. Et ça serait aussi l'inverse en termes de résultats politiques. C'est-à-dire que toutes les chaînes d'information du monde, en continu, ne pourraient pas faire fermer le bagne de Cayenne, quoi.
Ok, je vois. Et donc, ça me fait penser du coup à la suite de mes questions, qui serait du coup, est-ce que Pierre, tu peux nous expliquer qu'est-ce que le journalisme et quelles compétences et qualités sont exigées ?
Oui, alors sur les compétences et les qualités, bon, je crois qu'il y a de l'ordre de... C'est un quart seulement, un gros quart des journalistes sont diplômés d'écoles de journalisme. Il y en a une dizaine qui sont reconnus par l'État. Bon, en général, c'est des gens qui ont des gros postes à responsabilité dans la presse. Mais trois quarts des gens n'ont pas fait d'école de journalisme. Donc on fait tout type de parcours avant. Et donc c'est plutôt rafraîchissant dans la profession. Et se retrouvent à faire de la presse écrite, de la radio ou de la télé. Donc il n'y a pas forcément de voie royale, même si les écoles de journalisme sont conseillées pour arriver à faire ce métier. Et ensuite, bon, moi j'ai fait une école de journalisme, et ce qu'on nous dit, c'est que, en général, ça aussi c'est un peu une tarte à la crème, c'est que le journalisme doit être ou devrait être un contre-pouvoir. C'est-à-dire que on sait que dans les sociétés démocratiques, il y a trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, bon, et donc le journalisme devrait être un contre-pouvoir à ces trois pouvoirs. Bon, moi je crois que c'est un peu idiot de dire que ça devrait être un contre-pouvoir, parce qu'un contre-pouvoir serait un pouvoir aussi. Et donc d'ailleurs, les critiques de la presse aujourd'hui, traditionnelles, disent qu'il s'agit plutôt du quatrième pouvoir. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est assurément vrai dans la presse telle qu'elle est maintenant. Parce qu'en réalité, sur ce que devrait être le journalisme, et pour finir de répondre à ta question, le journalisme, en fait, c'est une représentation du monde social. C'est rien d'autre. Hein. C'est une manière de représenter le monde qui nous entoure. Et donc, on discutait des chaînes d'information en continu. Bon, c'est sûr qu'elles ont une manière de représenter le monde qui n'a rien à voir avec celle du monde diplomatique où je travaille, par exemple. Et donc, je pense que la bataille pour représenter le monde social ou le monde politique tel qu'il est doit être menée, et en premier lieu par des médias politiquement responsables, quoi.
Super. Et ben du coup, ça est parfait parce que ça découle sur la prochaine question que j'avais à te poser. Aujourd'hui, si 90% des médias sont possédés par une poignée de milliardaires, est-ce que le pluralisme des médias a-t-il encore un sens ?
Ben, je pense que ta question est très juste, et je pense que parler de pluralisme des médias dans ce contexte n'a plus aucun sens. Alors, il y a des gens qui opposent au discours que je viens de tenir le discours suivant. Ils disent, mais si, parce qu'en France, il y a le Figaro, mais on peut acheter le Figaro, donc il y a un journal quotidien de droite, mais on peut acheter aussi l'Humanité, qui est un journal plutôt marqué très à gauche, communiste, ou Le Monde, qui est un journal plutôt social-démocrate, Libération, etc. Donc, ce qui montrerait, d'après les gens qui tiennent ce discours, qu'il y aurait encore un pluralisme dans la presse et dans les opinions. En réalité, je pense que c'est entièrement faux, puisque la réalité des médias, c'est la réalité de leur propriété. Et leur propriété, c'est celle que tu as très justement rappelée, c'est qu'une poignée de milliardaires aujourd'hui, hein, au nombre de 7 ou 8, possède la quasi-totalité de la presse française. Et j'entends, quand je dis presse, c'est radio, télé, presse écrite confondue. Donc à partir de là, ben, moi ce que je crois, c'est qu'il y a un exemple qui nous a été montré récemment qui est très parlant, c'est Louis Boyard, qui est un député France Insoumise, qui sur le plateau de Cyril Hanouna s'est mis à critiquer Vincent Bolloré, qui est le propriétaire de la chaîne C8 sur laquelle Cyril Hanouna officie chaque soir. Et donc Hanouna a insulté Louis Boyard, ça a fait une polémique nationale, non seulement l'a insulté, mais l'a mis dehors du plateau. Et je trouve qu'il nous a rendu un grand service, Hanouna, à ce moment-là. Parce que ce qu'il nous montre, c'est que la critique de la propriété privée des médias, de la propriété privée des médias par des milliardaires, est impossible dans ces médias-là, dans les médias qu'ils possèdent, c'est-à-dire dans la stricte totalité des médias. Et Hanouna le montre très bien. Tout le monde s'en est plaint. Moi, je trouve qu'il fallait le féliciter parce qu'il montre que le vrai visage des journalistes de ces grands médias-là, qui sont des chiens de garde au service de leurs propriétaires.
Ouais, c'est assez édifiant, en fait. Et ça me fait penser à une dernière question, et je me pose ça de façon assez innocente, mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, nous, en tant que citoyens, en tant que citoyens français qui avons payé une redevance à l'époque, est-ce que tu penses qu'on a la possibilité de faire changer les choses au niveau du journalisme, des médias de masse qu'on a actuellement, pour dire, voilà, aujourd'hui, nous, on n'est pas satisfait des médias qu'on nous propose, de la façon dont est traitée l'information, et est-ce qu'il y a possibilité que nous, on puisse faire changer les choses et qu'on reprenne les choses en main pour qu'on nous propose du vrai journalisme avec des vrais journalistes, parce qu'aujourd'hui, on voit des journalistes, par exemple sur CNews, je prends l'exemple de Pascal Praud, qui à la base n'est pas journaliste, il vient du monde du sport. Est-ce qu'il y a une solution, tu penses, pour vraiment nous reprendre en tant que citoyens la main sur nos médias ?
Oui, moi je crois qu'une solution existe, et c'est l'application stricte du programme du Conseil National de la Résistance, qui a été fait en 1944, et qui consiste en une ligne, hein, c'est l'éviction de la presse de toutes les puissances d'argent. Donc c'est très simple. Tu as parlé de Pascal Praud, c'est un garçon qui travaille pour un média possédé par Vincent Bolloré. Bon, dans le monde, nous, pour lequel nous nous battons, Vincent Bolloré ne possédera plus aucun média. TF1 serait nationalisé, serait à la main, dans les mains du collectif, parce que l'information est un bien commun. Il est intolérable qu'elle soit privatisée et donc monnayée à des fins politiques et idéologiques. Donc il faut absolument, et ça passe par la prise de pouvoir, hein, que le CNR visait, évincer les puissances d'argent de la propriété de tous les médias.
Merci. Alors, Mathieu, qu'est-ce qui a conduit à la création de l'association Acrimed ? Depuis quand cette association existe-t-elle ? Quels sont ses objectifs et quelles sont ses actions ?
Alors, Acrimed, c'est une association qui a été créée en 1996. Le point de départ, c'est en fait au lendemain des grèves de 1995 qui avaient eu lieu, notamment dans les transports à Paris, une grande grève qui était contre la réforme Juppé de la sécurité sociale. Et en fait, au moment des grèves de 1995, il y a eu un traitement médiatique qui était totalement anti-gréviste, où l'essentiel des médias présentait les grévistes comme des preneurs d'otages, etc. Et suite à cet événement, c'est en 1996 qu'un collectif dans lequel il y avait au départ quelques journalistes, il y avait des chercheurs, il y avait aussi des simples citoyens, qui se sont dit on va créer un observatoire des médias. Puisque c'est pas possible que tous les médias aient ce traitement médiatique des mobilisations sociales. Et alors, dans ce collectif, notamment, il y avait au départ le sociologue Pierre Bourdieu, qui la même année a publié une conférence qui s'appelle « Sur la télévision », où il critiquait déjà le rôle de la télévision et le rôle des journalistes. Et donc, cet observatoire s'est créé. Au départ, c'était surtout un site internet. Qui publiait des réflexions sur les médias et des analyses. Des médias. Et ensuite, petit à petit, c'est devenu une association qui a accueilli de plus en plus d'adhérents. Même si au départ c'était essentiellement des sociologues et des journalistes, avec le temps, voilà, il y a eu des adhérents qui sont venus d'un peu tous les horizons. Moi-même, je suis professeur d'histoire et j'ai été adhérent et j'ai été un membre actif d'Acrimed, même si aujourd'hui j'ai un peu moins le temps. Le point de départ, c'est essentiellement ce site, une analyse vraiment critique des médias. Et puis, avec le temps, l'idée, ça a été de non seulement de critiquer les médias, mais aussi de faire des propositions, puisque l'idée, c'est quand même que les médias, c'est une vraie question politique, c'est une question majeure pour la démocratie. Et donc Acrimed est à la fois une force de critique des médias et puis une force de proposition avec un ensemble de mesures qui sont proposées par l'association, notamment pour lutter contre, par exemple, la concentration des médias entre les mains d'un petit nombre de milliardaires. Et donc il y a tout un tas de propositions qui sont disponibles sur le site et qui sont proposées globalement aux partis de gauche. Puisque bon, Acrimed reste quand même une association qui n'est pas partisane. Donc il y a pas de... Enfin, il y a des membres de partis dans Acrimed, mais on n'a aucun lien avec aucun parti politique. Mais globalement, l'orientation politique reste une orientation plutôt à gauche.
Tu termines, Mathieu, en évoquant une concentration des médias dans les mains des plus riches. Alors, est-ce qu'on peut considérer que les médias dits dominants, donc, ne sont pas indépendants, alors qu'en France, la liberté de la presse est garantie par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? Comment assurer l'indépendance des médias ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on a des solutions, mais ce qu'on essaye de faire, c'est au-delà du site, donc de faire connaître le site déjà... acrimed.org, hein, où on peut trouver beaucoup d'analyses. On a essayé de se développer, on a publié un journal aussi, on publie un journal tous les deux mois qui s'appelle Média Critique. Et puis on essaye de faire des conférences dans toute la France, certains membres d'Acrimed qui viennent présenter des choses sur les médias. Nous, ce qu'on essaye de faire à notre petit niveau, parce qu'on reste une association, on n'a que deux salariés, et puis c'est essentiellement des bénévoles, hein, dans Acrimed. Ce qu'on essaye de faire, c'est aussi, d'une part, interpeller les journalistes, parce que quand il y a vraiment un manquement grave ou quand il y a des fake news, comme vous dites, on essaye d'en parler, de le faire savoir. Alors après, interpeller les journalistes, ça marche pas forcément. Ça peut marcher auprès des petites mains, j'ai envie de dire. Je sais que, par exemple, à une époque, quand on faisait des articles sur Nicolas Demorand, Nicolas Demorand lui-même, donc qui était à France Inter, lui-même, je pense que ses articles, ça l'intéressait pas. Il s'est pas remis en cause suite à nos articles, mais par contre, la rédaction de France Inter nous écrivait. en étant, et notamment des membres de la rédaction de France Inter qui disaient merci pour votre article, vous avez fait comprendre que Nicolas Demorand raconte n'importe quoi, etc. Voilà, après nous, ce qu'on essaye aussi de faire, c'est de proposer aux partis politiques, parce que ça se joue quand même à un moment, ça doit passer par des lois, à un moment, pour changer les choses, hein, pour éviter par exemple que Bolloré ait la main mise sur. Un grand nombre de médias, eh ben, on pourrait faire une loi anti-concentration pour l'empêcher d'avoir à la fois CNews, Europe 1, des journaux, etc. Ça pourrait passer par là. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer nos idées à des partis politiques. Certaines d'entre elles ont été reprises par la France Insoumise, par le NPA, ou même certains aspects ont pu être pris par les Verts. Mais évidemment, comme ils ne sont pas au pouvoir, et comme le pouvoir actuel, évidemment, il a envie de rien faire par rapport à ça, c'est sûr que c'est compliqué de faire avancer les choses. Après, ce qu'on essaye, c'est vraiment de parler à la population, mais c'est toujours pareil, on a un petit niveau, on est une petite association, donc on ne peut pas faire connaître toutes nos analyses à tout le monde facilement.
Je voudrais revenir sur un événement qui avait marqué un tournant essentiel dans la question justement de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Avec l'attentat contre Charlie Hebdo, on a prôné, à juste titre d'ailleurs, cette liberté d'expression comme arme contre l'obscurantisme, notamment en créant le slogan « Je suis Charlie ». J'aimerais savoir ce que tu en penses.
Alors nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a globalement deux poids deux mesures. C'est « je suis Charlie » quand on tape sur les musulmans, ça... Les médias sont d'accord, et puis quand on fait une critique d'Israël par exemple, je suis Charlie, ça marche plus. Donc le problème, c'est ça. Alors là, on est face à une particularité, c'est que c'est sur le service public, donc là c'est l'État directement qui décide, et donc là c'est évident qu'il y a une décision politique, pas forcément de Darmanin lui-même, mais en fait la présidente de France Inter maintenant qui est proche du pouvoir et qui est proche de Macron, bah évidemment, elle va déprogrammer un journaliste. Dans le service public, il y a de plus en plus de problèmes comme ça. On sait que, par exemple, Complément d'enquête, l'émission d'enquête de France 2, qui avait fait un numéro sur Jordan Bardella, on leur a demandé d'arrêter de faire des documentaires politiques pour les européennes. Donc, ils avaient prévu de faire un documentaire sur Gabriel Attal qui a été annulé. Donc là, on est vraiment face à un problème, c'est-à-dire que le service public, il est de plus en plus sous la coupe du pouvoir, et puis les médias privés, ils appartiennent à des milliardaires. Donc la difficulté, c'est qu'il n'y a quasiment plus vraiment de médias indépendants en France, sauf quelques-uns comme Mediapart, par exemple, ou comme Blas sur YouTube. Et en fait, je pense que maintenant, le seul aspect... Le seul lieu d'expression un petit peu libre, c'est encore sur Internet et les médias indépendants. Mais le problème, c'est que ces médias indépendants, ils n'ont pas la même audience que les grands médias qui sont de plus en plus verrouillés. Et ça, c'est vraiment un problème, mais c'est un problème politique, quoi. Et donc, pour l'instant, avec le pouvoir actuel, on peut pas faire autre chose que le dénoncer.
Merci, Mathieu. Dans un monde où les grands médias dominent, existent d'autres médias alternatifs indépendants, offrant un regard différent sur l'actualité, les enjeux sociaux, la culture. Ces plateformes sont le foyer de voix souvent marginalisées. Voici une liste non exhaustive de médias d'investigation en ligne, papier, à consommer sans modération. Mediapart, Blast, Le Média, Basta, Pure Politique, Reflet, Street Press, Spectre, Fakir, Là-bas si j'y suis, Le Journal de l'Insoumission, Alternative économique, Le Monde diplomatique et l'Humanité pour lesquels notre invité Pierre Souchon travaille. Et localement, une radio qui a fêté ses 40 ans, Fréquence 7, toujours décalée, différent et pas pareil.
Au courant ? Ah non. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est dans les tuyaux.
Il y a 70 ans, le 1er février 1954, résonnait sur les ondes l'appel de l'abbé Pierre. Une femme venait de mourir de froid dans les rues de Paris. Ses rencontres aident la vie d'expulsion, la jetant dehors. Aujourd'hui, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre, déclare à Mediapart « L'année 2023 restera celle d'une aggravation alarmante de la crise du logement. Et malheureusement, ce ne sont pas les déclarations de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale le 30 janvier concernant la loi SRU, entre autres, qui va arranger les choses. »
On s'en prend encore aux chômeurs.
Oui, nouvelle attaque contre les chômeurs, un projet de réduction de 20% du temps d'indemnisation est en préparation. Fin de l'ASS au profit du RSA, la suppression de l'allocation spécifique de solidarité qui concerne les seniors, en fin de droit, les feront basculer dans la précarité du RSA. Actuellement, l'ASS permet le cumul avec d'autres revenus. Pour un couple, le plafond de ressources mensuelles est de 1998,70. Au RSA, le plafond est de 911,63 €, toujours pour un couple. Comment vivre dignement avec cela ?
Et du côté des luttes syndicales ?
La CGT-RATP a déposé un préavis de grève jusqu'au 9 septembre 2024. Le Code du travail et la Convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs imposent une période de 5 jours francs précédant le déclenchement de la grève. Anticiper avec ce dépôt pour 7 mois permet de déclencher une grève rapidement.
Des nouvelles de Saint-Pierre-de-Colombier ?
Oui, une avalanche de convocations à la gendarmerie de Thueil sur plainte de la famille missionnaire. Depuis quelques jours, nous accompagnons solidairement des personnes sommées de s'expliquer. Sinon, les amis de la Bourge attendent la décision de justice qui sera rendue le jeudi 8 février. La lutte continue.
Mathieu, militant d'Acrimed, tout à l'heure a évoqué la contribution de Pierre Bourdieu, qui est un grand sociologue français qui nous a quittés le 23 janvier 2002. Vincent, est-ce que tu peux confirmer qu'il a joué un rôle essentiel dans la compréhension des mécanismes qui régissent l'organisation de notre société ? En bref, quel est l'esprit de sa réflexion ?
Alors oui, Pierre Bourdieu a laissé une empreinte indélébile sur le paysage intellectuel mondial. Sa théorie des champs sociaux, son analyse critique de la société et son concept de capital culturel ont profondément influencé les domaines de la sociologie et de l'anthropologie, entre autres. Au cœur de l'œuvre de Bourdieu, on retrouve une exploration profonde des structures sociales et culturelles qui façonnent nos vies. Sa notion de capital culturel, souvent discutée, a révélé comment les privilèges et les inégalités sont transmis à travers les générations, non seulement par des biens matériels, mais aussi par des compétences culturelles, des normes et des valeurs. Bourdieu a également mis en lumière le rôle des champs sociaux dans la reproduction sociale. Ces champs, qu'il a décrits comme des sphères de compétition symbolique, déterminent qui détient le pouvoir et l'influence dans une société donnée. Qu'il s'agisse du champ artistique, du champ académique ou du champ politique, Bourdieu a montré comment les acteurs luttent pour accumuler du capital symbolique et maintenir leur position dominante. Son œuvre n'est pas sans controverse. Certains ont critiqué sa vision déterministe de la société, arguant qui sous-estimait la capacité des individus à agir de manière autonome. Cependant, son analyse rigoureuse des mécanismes de domination sociale reste pertinente pour comprendre les inégalités persistantes dans le monde contemporain.
Merci beaucoup Vincent. On peut donc dire que toute son œuvre s'appuie sur une analyse des mécanismes de reproduction de toute la hiérarchie sociale. Alors, je voudrais terminer cette rubrique de Culture et moi avec justement le texte que Mathieu évoquait tout à l'heure, juste à propos de Pierre Bourdieu, donc qui s'appelle « Sur la télévision », qui est une retranscription de deux contenus télévisés qui ont eu lieu dans le cadre d'une série de cours du Collège de France. Alors, le premier cours examine, entre autres, et décortique les mécanismes de ce que Bourdieu appelle la censure invisible, et il cherche à montrer comment les images et les discours de télévision sont construits, justement pour participer à cette censure invisible. Par exemple, il va expliquer que l'image, elle a cette particularité qu'elle peut faire voir et produire ce qu'on appelle d'ailleurs dans les critiques littéraires l'effet de réel, c'est-à-dire que l'image peut faire voir et faire croire à ce qu'elle justement va montrer. Quoi. Et le deuxième cours, donc, hein, qui s'appelle l'emprise du journalisme, explique comment la télé, qui domine donc le monde du journalisme, a dénaturé tous les autres champs, qu'il s'agisse des champs littéraires, culturels, artistiques, philosophiques et même politiques, en introduisant la logique de l'audimat. En bref, hein, il examinera comment la forme est privilégiée sur le fond et comment les médias deviennent homogènes, c'est-à-dire finissent par tous traiter du même sujet, en l'effleurant seulement, parce que justement, soumis aux lois de la concurrence pour assurer un bon audimat. Et Bourdieu de conclure sur une interrogation qui consiste à se poser la question de savoir s'il ne faut pas lutter contre l'audimat, justement au nom de la démocratie. Et enfin, je voudrais terminer par le texte que nous avions proposé à la lecture le mois dernier, qui parlait justement des thématiques du Capital de Marx, en mettant en image comment un jeune artisan fromager passe à une production industrielle en vue de gagner plus d'argent, et donc du coup comment il est confronté aux impératifs de productivité et de rentabilité inhérents au système capitaliste. Si ce manga vous intéresse, vous pouvez le gagner en écrivant à drôledemefrançaisf7@gmail.com, tout en minuscule et sans le S et l'accent circonflexe à drôle.
Et on va donner un petit mot de passe pour le faire gagner, on va donner Capital, ça vous va ?
Très bien.
C'est parti.
Et voilà, Drôle de Dame, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, portez-vous tous bien.
Au revoir.
Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leur toison lisse glissent les scies. Superposition de supposition, ils vont me mettre ma télé en bouteille.
Donnez-moi de l'information.
Ouais, c'est ça, les...
Donnez-moi de l'information.
Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf
publicité.
On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier water, l'auditeur, coup de Trafalgar, des voitures de luxe, des hommes en déroute, des slogans qui frappent. Chirurgicale, opération boursière, bancaire, comptage de morts qui monte et sort de l'audimat. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance, des révélations impromptues pour mon prompteur abattu,
des débats animés,
plein de manies et de tics,
journalistiques,
manichéens,
et deux, et trois, passant à l'heure,
on se contente à tout
d'un flot de superlatifs.
À chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela, et tous pour un et tous pourri, on simplifie. Ça amplifie, édition spéciale, édition spéciale. Une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu, oui tout entendu. Oui moi j'ai tout entendu, oui tout entendu. Oui moi j'ai tout entendu, oui tout entendu. entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout entendu, oui moi j'ai tout entendu. Oui tout entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information.
D'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas.